C'est ton premier podcast, donc.
Ouais.
Ouais, je suis content. Est-ce que je dis Claire, je dis Léona, comment je t'appelle ? Léona Rose, ouais. Bienvenue Léona Rose dans mon podcast. D'ailleurs, je crois que ça va être même mon premier épisode. Donc, tu vois, on fait une première tous les deux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu ton parcours.
Ouais.
Parce que je te connais un tout petit peu et tu as fait un changement de vie.
Ouais, radical.
Radical. Est-ce que tu peux nous parler un peu succinctement de ta vie d'avant et de ce que tu fais maintenant ? C'est quoi ton parcours, en fait ?
Ma vie d'avant, en fait, j'étais agent immobilier. Au début, j'ai commencé par bosser dans une foncière immobilière. Donc, c'était très sérieux. Je travaillais énormément. Je gagnais pas très bien ma vie. Après, c'était un peu plus cool parce que j'ai bossé dans la loc d'appart. En fait, je me rendais compte que c'était moins intellectuel, mais que je gagnais mieux ma vie. Mais très vite, je trouvais pas ça très épanouissant. C'était un milieu assez matérialiste, en fait, rempli de tableaux de chiffres, de hiérarchies.
Et comment t'en es arrivé ? Qu'est-ce qui t'a emmené dans un premier temps dans ce secteur de l'immobilier ?
Moi, j'ai fait une école de commerce. Je voulais monter mon agence immobilière parce que dans ma famille, les gens sont un peu commerçants, chefs d'entreprise, pour ceux qui ont bien réussi, en fait. Donc, je me suis dit, je vais suivre le même chemin. J'ai toujours été dans la lune depuis que je suis toute petite. Et on m'a dit, ouais, mais Claire, arrête. Au bout d'un moment, dessiner, c'est pas un métier, quoi. Tu es déjà complètement perché. Tu vas pas gagner ta vie en faisant des dessins. Donc, vu ce que tu dépenses, vu le train de vie que tu voudrais avoir, avec les...
C'est pas avec les dessins que tu vas y arriver.
C'est ça, ouais, un peu les exigences sociales. Si un jour tu veux acheter un appartement, c'est un peu le but de tous les gens, avoir un chien, un appart, un crédit, une voiture. Et donc, on me dit, si c'est le schéma de vie que tu voudrais, parce que c'est ce qu'on pense qui est bien pour toi, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que tu fasses une école de commerce, il faut que tu fasses S. Donc, heureusement, S, j'étais tellement nulle en maths que c'était même pas une option. Mais en fait, c'est triste, parce que même quand on est à l'école, en fait, moi, j'aurais dû faire un bac L ou un peu artistique.
C'est-à-dire que très tôt, on t'a orienté dans une voie. Mais tu sentais que cette voie n'était pas vraiment la voie sur laquelle tu aurais aimé aller, ou pour toi, c'était normal qu'on te dise, c'est pas avec des dessins que tu gagneras ta vie, fais S, c'est mieux que L.
En fait, t'as déjà la pression dès l'école, en fait. Les L, c'est un peu les hippies, un peu. Les S, ce sont les intellos. En fait, si t'as des capacités, c'est bien que tu fasses S, en fait, on te le fait comprendre. Alors que peut-être que t'es juste littéraire et que c'est très bien. Mais déjà, c'est un peu hiérarchisé par les filières, je trouve.
Donc toi, si tu devais revenir un peu sur ce passé, qu'est-ce qui t'a orienté vers... C'est plus tes parents, c'est l'école elle-même qui t'a orienté vers cette voie, alors que Tu savais déjà très tôt que t'aimais dessiner?
Ouais, en fait, je dessine depuis que je suis toute petite. Je dessinais dans ma chambre pendant des heures et des heures. Mais du coup, ça m'isolait un peu. Donc, on me disait déjà que j'étais un peu dans la lune et un peu à part. Et donc, du coup, j'essayais de me mettre un peu sur les rails par l'école en ayant des bons résultats. Et du coup, j'ai fait éco au lycée. Mais pas... C'est moi qui ai choisi, hein, mais... Parce que je comprenais qu'en fait c'était la bonne chose, quoi. Parce que tous mes potes qui avaient de bons résultats faisaient ça, donc du coup j'ai fait ça aussi, quoi.
Ok, donc après l'immobilier, pourquoi pas l'immobilier, ouais. Tu t'es dit c'est un secteur qui est porteur.
Ouais, je me suis dit exactement, je vais monter mon agence, ça va être bien. J'ai fait une école de commerce, on m'a dit t'as payé 20 000 balles d'école, tu vas avoir un super salaire, tu vas être manager, ça va cartonner. Donc je me suis dit parfait, c'est ce que j'ai prévu, je vais avoir une super garde-robe, une super vie à Paris, une voiture, un appart, un mec, un chien, top. Et en fait très rapidement, je suis arrivée à Paris, j'ai payé 700 euros pour un 13 mètres carrés. Je travaillais énormément pour un peu plus que le SMIC. Et en fait, on me demandait beaucoup, beaucoup de travail. Je n'étais pas du tout manager. Les perspectives, ce n'est pas du tout ça, parce que le monde du travail, c'est quand même compliqué quand tu arrives et que tu n'as pas d'expérience. Du coup, tu fais un peu ce qu'on te demande. Et au-delà de ça, intellectuellement, c'était des tableaux de chiffres, des objectifs, des données financières.
Très éloigné de ce que tu aimais.
Ouais, très opportuniste, en fait. Au final, il n'y avait pas vraiment d'aspect humain. C'était des chiffres, en fait. Des chiffres et de la commission, quoi.
T'as fait ça combien d'années ?
J'ai fait ça pendant 6 ans, quand même.
Ah oui, 6 ans.
Ouais. Déjà, le premier job que j'ai eu dans une foncière, au bout d'un an et demi, je me dis, franchement, c'est vraiment pas pour moi. Genre, trop de tableaux Excel et tout. Je me dis, non, là, c'est trop. Je travaille trop. J'aime bien le travail, mais quand même. Du coup, je me suis dit, je vais faire un truc un peu moins intellectuel et plus à la cool. Donc, j'ai loué des apparts et là, je rencontrais des gens, je faisais des visites. Donc, comme j'adore le relationnel, ça passait mieux. Mais sauf que pareil, au bout de 3 ans, je me suis dit, non, en fait, c'est toujours pas ça. Et j'ai commencé à dessiner un après-midi, un week-end, en fait. Mais le problème, c'est que se poser pour dessiner, déjà, ça demande de l'inspiration, du temps. Et quand tu travailles déjà toute la semaine, que tu dois courir pour faire tes courses, ton ménage, voir tes potes, les 2 jours du week-end que t'as pour peu que tu sois sorti la veille, t'as pas le temps vraiment ça, de te poser pour réfléchir à ta vie, quoi.
Et donc 6 ans, ça t'emmenait à quel âge? T'avais quel âge au moment où t'as commencé à réfléchir à tout changer?
J'avais 27 ans, ouais.
Ok. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur fort ou c'est une succession de choses qui t'ont emmené vers ce changement?
Ben, en fait, j'ai une pote qui était enceinte qui m'a dit « Ouais, j'aimerais bien que tu fasses des dessins. J'ai vu que tu dessinais. T'avais fait un dessin l'autre jour, l'autre après-midi, là, en dimanche. Je trouve cool. J'aimerais bien que tu me fasses un autre animal parce que je faisais des animaux à plumes. J'aimerais bien que tu m'en fasses un autre... peut-être pour la chambre pour décorer. Je dis ok, bah, le prochain dimanche je ferai ça. Et au final bah, j'en ai fait encore un autre, donc ça faisait déjà 2-3 dimanches de pris.
Mais là ça te faisait plaisir déjà?
Ouais, voilà, ça me permettait un peu de m'évader parce que le job que j'avais me pesait, j'avais pas de perspective d'évolution, on m'en demandait beaucoup, j'étais pas épanouie en fait. J'avais que mes 5 semaines de congés payés, donc ça commençait à me peser. Et voilà, donc au début c'était pour m'évader vraiment.
Ok, donc de fil en aiguille tu te mets à dessiner plus, tu te rends compte que c'est ça qui t'anime en fait, qui
c'est
te plaît.
C'est ça.
Et comment t'en es arrivé à dire un jour je plaque tout et je me mets à fond dans le dessin?
Bah en fait je faisais des crises d'angoisse, j'angoissais de plus en plus et je le sentais en fait. Et je me suis dit bah écoute, aie le courage de le faire, t'as pas encore 30 ans. Au pire je pense que... t'auras peut-être le chômage au départ, parce que j'ai quand même été salariée pendant 6 ans. Donc soit une aide au lancement, soit ils te versent en fait une indemnité tous les mois.
T'as réussi à avoir une rupture conventionnelle ou quelque chose?
Donc je me suis dit, ma seule condition, c'était prendre mon temps pour avoir une rupture conventionnelle et de manière à avoir au moins une rente tous les mois pour pouvoir payer mon loyer, un peu mon matériel et me payer à manger, quoi. Pour pouvoir rester à Paris et justement démarcher et me lancer dans l'artistique.
Ça s'est fait en combien de temps, ce moment où t'as décidé de dire, ok, il faut que je trouve ma rupture, il faut que je vais tourner la page? Ça s'est fait en plusieurs mois?
Ça m'a pris quand même un an, parce que du coup, comme j'avais aucun book et zéro référence, bah, j'avais besoin de commencer à créer des dessins, parce que du coup, j'avais mes 3 dessins, là. Et j'allais voir,
tu voudrais pas
que je te fasse un mur ou une identité visuelle? On me disait, ouais, t'es sympa, mais qu'est-ce que tu sais faire d'autre à part un ours, un éléphant et un koala, quoi? J'étais là, ben, je peux faire plein d'autres choses, mais on me demandait de voir. Du coup, c'est un point grave, parce que c'est un peu un cercle vicieux au début.
Oui, au début, il faut amorcer la pompe, quoi.
C'est ça.
Et ok, et les gens autour de toi, quand t'en as parlé rapidement de cette décision ou t'as attendu un peu?
Moi, je suis un peu assez spontanée. Du coup, j'en ai parlé quand ça m'est passé par la tête au tout début. Mon père m'a dit « Non, mais t'es sérieuse. C'est ta nouvelle lubie. » Donc, il s'est dit « Dans 2 mois, ça va lui passer. J'ai des
t'as
copines...
pas été prise au sérieux tout de suite?
Ouais, j'ai des copines qui m'ont dit « Mais tu t'es pris pour Picasso. » Genre, aucun rapport. c'est un peu ingrat, en fait. Les gens comprennent pas trop parce que l'artistique, c'est assez spécial. J'ai dit non, sans me prendre pour Picasso, j'ai peut-être juste envie de faire mon truc à moi. Mais les gens, ils comprennent pas, en fait, c'est un peu atypique comme choix.
Qu'est-ce qu'ils comprennent pas, à ton avis, quand ils disent « Est-ce que tu te prends pour Picasso ?»
Bah, parce que pour eux, artiste, en fait, déjà, c'est pas un métier. Ils voient pas concrètement comment tu peux gagner ta vie, comment ça s'applique dans la vraie vie, en fait. Ça les dépasse un peu.
Ils ont un peu peur pour toi, quoi. Ils se disent « Est-ce que vraiment elle se rend compte ?»
Dans quoi elle est partie, ouais. Okay. J'ai eu ça et mon père m'avait dit, bah, il m'a fait la gueule pendant genre au moins 3 semaines, quoi.
Ouais,
ma mère m'a dit, tu vas tuer ton père. J'étais là, non, mais je vais tuer personne, je vais juste arrêter de faire des crises d'angoisse parce que je suis vraiment pas à la bonne place et j'ai envie de trouver ma voie, quoi.
Mais ça, tu l'expliquais aux gens que c'était, enfin, tu faisais des crises d'angoisse, que quelque part ça commençait à porter atteinte à ton physique.
C'est ça, ouais.
Et ça, ils disaient, non, mais ok, change, mais... Le dessin, non, quoi. Pour eux, le côté artistique dessin était...
Ouais, mais les gens sont tellement loin de ça que limite, ils ont envie que t'ailles mieux. Mais ils te disent, essaye de te calmer, va faire du sport ou dessine le week-end. Et pour toi, en fait, ils comprennent pas que le job que t'occupes, c'est des gens que tu fréquentes genre 5 jours sur 7. C'est plus des 3/4 de ton temps, en fait.
Okay.
Donc, à un moment donné, même si le week-end et le soir, je faisais ça, c'était plus assez, quoi. Parce que j'étais tellement pas à ma place, parce que...
Et donc, à un moment, arrive le jour de la rupture conventionnelle, donc tu quittes ton job.
C'est ça.
Et là, ça y est, première journée où tu fais que ça, en fait.
Ouais, bah en fait, au début, j'ai eu beaucoup de temps pour moi, ça fait super bizarre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment attendre le bon moment pour se lancer, parce que du coup, après, t'es tout seul chez toi, un peu face à toi-même, et t'as beaucoup de temps pour gamberger. Et des journées qui paraissaient passer vite, quand tu cumulais une activité salariée plus du dessin, quand t'es tout seul à faire du dessin, t'as pas non plus 1 milliard de demandes. Moi, au début, je faisais que de l'illustration. Et du coup, ouais, les journées sont longues, quoi. Donc, je m'imposais de me lever le matin. Mais du coup, il faut avoir quand même Un tempérament, pas lâcher l'affaire, quoi.
C'est quoi sur les premières semaines, les premiers mois où tu t'es retrouvé à plein temps dans cette nouvelle passion, par quelle phase t'es passé? Est-ce qu'il y a eu des phases?
La première phase, c'est que j'ai claqué mon solde tout compte pour partir en voyage à Bali. Ça, j'ai dit, on n'a qu'une vie, on verra bien ce qui se passe après. Mon père,
ils ne prendront pas ça sera fait.
Ça, au moins, ils ne me l'enlèveront pas. Donc là, mon père a continué à se dire, mais elle est complètement perchée. Genre, ça, la nana va rentrer à la maison dans moins de 2 semaines juste après son voyage. Et ça m'a bien inspirée, parce que je savais que j'avais besoin de ça, en fait. Du coup, j'ai vu qu'à Bali, les gens vivaient avec beaucoup moins de moyens qu'à Paris. Il y avait un autre schéma de vie qui est possible, en fait. Moins okay. matérialiste.
T'as rencontré quand t'as expliqué ce que t'étais en train de faire à ces gens que t'as rencontrés là-bas, t'as eu un retour différent de ce
Ouais, complètement. J'ai des potes, par exemple, italiens, qui vivaient en coloc, qui payaient genre 150€ de loyer chacun. Ils faisaient de la photo, qui vendaient dans des endroits touristiques, etc. Et le reste du temps, ils surfaient, ils se baladaient. Parce que du coup, avec 150€ par mois, là-bas, tu peux... Si tu vis un peu en mode local, ça passe, quoi.
Mais est-ce que c'est pas cette vie un peu utopique que tout le monde voit sur les réseaux sociaux, qu'on envie tous, du mec qui part...
Si,
qui
après, je pense qu'il y a des moments où ils galèrent, et quand ils doivent revenir pour se prendre un billet à Paris et revenir dans la vie un peu qu'on a ici, oui, effectivement, il y a des moments où ça doit être compliqué, mais en attendant, c'est possible, quoi.
Ok, donc phase 1, Bali. Phase 2
Phase 2, je suis rentrée.
Ouais.
et là, du coup, j'avais plein d'inspiration. J'ai continué un peu à étoffer mon portfolio. Ça m'a donné plein d'idées pour faire mes créas. J'avais démarché en fait plein de marques, de lieux pour lesquels je voulais travailler. Et en fait, quand t'as pas de book et pas de référence, tu travailles gratuitement, quoi.
Donc là, déjà, tu savais que t'avais besoin de te créer un book pour pouvoir démarcher.
Et du coup, je me suis dit que créer mon book toute seule, c'était pas le top. Quitte à faire des créas gratuitement, autant ne pas les faire que pour moi, mais les faire en fait pour des lieux. Donc je me suis dit, contacte des lieux, comme ça tu vas d'une part étoffer ton book et d'autre part les faire pour un lieu. Donc en fait, ça double la visibilité. Ça me fait, moi je vais le poster et la personne va le poster aussi. Donc au moins, quitte à faire quelque chose gratuitement, autant le faire pour quelqu'un, quoi.
Ça, c'est super intéressant. Et tout de suite, tu as eu cette idée de faire les choses gratuitement. Parce que moi, souvent, j'entends des gens qui ont envie de se lancer et qui justement disent « Oh non, moi, je veux pas travailler gratuit, j'ai envie de trouver mes premiers clients tout de suite. »
Moi, j'ai fait ça pendant quasiment un an. Hein.
Okay.
Ou une fois, j'ai eu 100€ symboliques pour, 2 semaines que j'ai passé. Ouais, j'ai fait des illustrations pour un magazine. Mmh. Ça m'a pris 2 semaines de travail, donc environ 70 heures de taf. Et ils m'ont payé 100€ pour la forme, quoi.
Mais c'est génial comme stratégie, parce que c'est vrai que si demain tu te mets à, je sais pas, si t'as dessiné quoi, dans des restaurants, dans des lieux publics, les premières choses gratuites que t'as pu faire, c'est quoi par exemple?
Des élus pour des magazines. Ah oui, aussi, ouais, j'ai commencé comme ça, je me suis dit je vais faire des fresques dans les hôpitaux. Parce qu'au moins c'est pour
ça,
une
ça
bonne...
c'est un penchant très intéressant, toi, tu voyages, tu fais dans des orphelinats, j'ai
c'est
vu.
C'est ça.
Ouais.
Du coup, en fait, j'avais jamais trop fait de mur, ça me permettait de m'entraîner, il me défrayait le matériel. Et je faisais une cause utile, en fait. Donc je me disais, au moins je me sens utile dans ce que je fais, et moi ça m'entraîne, je peux prendre mes petites photos, et voilà, tout le monde.
Mais justement, parlons de tes causes, parce que c'est quelque chose qui prend une bonne partie de ce que je vois sur tes réseaux. Tu peux nous parler un peu de ce penchant là de toi?
Je fais pas mal. En fait, dès que je voyage, j'essaie de peindre dans un orphelinat dès que j'arrive dans un pays. Comme ça me permet de mettre un pied dans le pays et de voir vraiment les choses, comment ça se passe vraiment, en fait, en dehors de la carte postale qu'on peut tous voir. Et j'adore faire des choses avec les enfants. Et disons que les enfants sont assez rêveurs, instinctifs, intuitifs. Donc j'arrive avec des feutres, des petits Posca. C'est des feutres en fait à base de peinture à l'eau. Et généralement, on choisit un mur ensemble. En fait, tout simplement, je me pose avant de voyager. J'établis une petite liste des endroits qu'on m'a conseillé ou autres. Et je les contacte, je leur envoie des messages sur Facebook, sur Insta... par mail, et je leur dis « Hello, moi c'est Léona, j'aimerais bien venir peindre un petit mur chez vous avec les enfants, je serai là de telle date à telle date, est-ce que c'est possible ?» Donc pareil, au début c'était un peu galère parce qu'ils ne voyaient pas trop ce que je faisais, mais maintenant que j'ai pas mal de références et tout, ils me disent « Ok, bienvenue, tu veux venir quand ?»
Cool.
On fait un petit groupe d'enfants qu'on prépare à l'avance, donc tu auras 15 enfants pendant tant de temps, sur tant de jours, et voilà, c'est parti.
C'est génial, donc tu dessines le mur avec les enfants.
Ouais, en fait, je fais les contours moi, et après eux viennent remplir. Je leur dis, allez les gars, c'est bon, c'est prêt, vous pouvez venir. Et ils arrivent.
Mais vous dépassez pas du trait.
Non, mais au début ils sont timides, et après c'est la bagarre, quoi.
La bagarre.
Mais après ils se gèrent entre eux, en fait. Ils ont l'habitude, en fait, de vivre en communauté. Du coup, les plus grands aident les plus petits, et ils sont tellement contents, en fait. Ils ont tellement jamais vu ça qu'ils sont vachement respectueux.
Ok, c'est top. Ouais. Et donc phase 1, Bali. Phase 2, tu t'es dit, il faut que je crée mon book. Donc, tu proposes de travailler gratuitement avec ce côté où c'est mieux, à la limite, de prendre des commandes pour d'autres gens plutôt que d'essayer de créer que pour moi-même.
D'une part, d'autres gens et d'autre part, des causes bénévoles, en fait, ouais.
Après, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, j'ai besoin de visibilité. C'est là où tu as commencé à monter ton Insta, peut-être? Ou tout de suite, tu as commencé à poster sur les réseaux sociaux?
Ouais, tout de suite, en fait. Tout de suite. Et ouais, mais c'était pas vraiment la
chose. C'est quelque chose qui t'a aidé, les réseaux sociaux?
Un peu au départ, ouais. Après, disons que j'avais peint dans un riad qui cartonne sur Instagram au Maroc, qui s'appelle le riad Yasmine. Et j'y étais allée par hasard, justement par Instagram. J'avais vu une blogueuse qui était allée prendre un thé un après-midi là-bas et j'ai dit « Ah, cet endroit a l'air incroyable, j'étais au Maroc ». Et je suis allée prendre le thé là-bas aussi. Et j'ai discuté avec la personne qui a le riad. Et le lendemain, elle m'envoie un message. Elle me dit « J'ai vu ce que tu faisais un petit peu. J'ai peut-être quelque chose à te proposer ». Donc c'était le mur derrière, dans le patio en fait. Derrière la piscine. Et en fait, elle a posté plein de photos de ma fresque, du work in progress et tout. Et en fait, ça m'a fait vraiment décoller parce qu'elle est suivie par énormément de personnes. Et en fait, c'est ça qui m'a fait décoller. Et justement, là où Instagram a pris tout son sens.
Ok. Et donc là, phase 3, phase 4. Et donc là, maintenant, t'en es où? Ça fait combien de temps que tu dessines à plein temps maintenant?
Maintenant, ça fait 3 ans, ouais. 3 ans et demi.
Ok. Et tu fais des fresques,
ouais.
Tu fais des illustrations, t'as fait des livres, non t'as fait, qu'est-ce que t'as fait?
Bah là, je suis sur un projet de livre avec Little Urban, qui est le label jeunesse de la maison d'édition d'Argo.
Ok.
Du coup, je sors un grand cherche-trouve, genre Où est Charlie, où il va falloir chercher trois personnages, donc trois flamants roses dans des décors monochromes. Donc, c'est un tour du monde de la couleur, avec tous les pays que j'ai pu visiter. Donc, c'est des lieux dans lesquels je suis vraiment allée et je les ai cachés dans des paysages. Voilà.
Et comment tu décrirais ton univers? Parce qu'il est très coloré, il y a beaucoup d'animaux, c'est la jungle, c'est qu'est-ce que tu décris?
Joyeux, un peu déjanté,
okay.
Hippie, coloré.
Ton style, il a changé ou il change, il évolue? Comment on fait pour... Enfin, moi, je ne suis pas artiste et je ne sais pas dessiner, donc voilà. Mais comment tu fais pour faire évoluer ton art? En fait, comment il évolue un art quand tu es artiste?
Bah, je pense que au début, en fait, je faisais des têtes d'animaux graphiques, que des têtes, que je faisais d'abord en noir et blanc. J'utilisais pas du tout la couleur. Et déjà, petit à petit, j'ai commencé à mettre de la couleur. Donc, au début, je travaillais avec une palette de couleurs restreinte. Et petit à petit, j'ai rajouté des couleurs. Par exemple, je mettais pas du tout de bleu au départ ou autre. C'est un peu comme la cuisine. Au début, quand on gère pas trop...
On fait des aliments simples.
Ouais, voilà, on fait au plus simple. Et après, on étoffe petit à petit, en fait. Et petit à petit, donc, à mes têtes d'animaux, j'ai rajouté les corps. J'ai rajouté des éléments derrière, j'ai fait des fonds, donc voilà. Après, j'ai fait mon premier mur et ainsi de suite.
Ok,
ouais,
trop bien, félicitations. Et justement, si on pouvait revenir un peu dans le temps et toi te prendre et aller parler à la Léona au moment où tu t'es lancée, tu lui dirais quoi? Ça va bien se passer.
Ouais, ça va bien se passer. Bah, écoute tes potes qui t'encouragent, n'écoute surtout pas les autres. Concentre-toi, respire. Faut relativiser, je pense, parce qu'il y a des fois, c'est pas toujours facile. Faut garder son objectif en tête sans forcément s'arrêter au moment présent ou à court ou moyen terme. En fait, faut voir plus loin parce que c'est assez anxiogène parfois. Parce que y a des mois, on est overbooké, des mois, c'est plus calme. Donc, juste respire. Projette-toi genre à 6 mois, 1 an. Ne vois pas forcément juste demain, quoi.
T'as eu des moments où, avant que ça marche, peut-être qu'il y a eu des trous d'air, de doute, où tu t'es dit est-ce que je suis vraiment au bon endroit, est-ce que je vais y arriver, ou est-ce que t'as même eu envie d'abandonner?
Non, moi j'ai toujours adoré faire ça, mais c'est juste que je me suis dit peut-être que financièrement, ce mois-ci j'ai des projets, mais peut-être que le mois prochain j'en aurai pas, parce qu'en fait mon réseau n'était pas encore assez étoffé, et je me suis dit ce mois-ci j'ai des appels, mais qu'est-ce que ce sera dans 6 mois en fait? Je sais pas. Du coup, c'était plus... j'étais anxieuse en me disant, si on m'appelle moins ou plus dans quelques mois, peut-être que je devrais faire autre chose.
À partir du moment où tu as acté de dire, OK, le dessin, ça sera ma voix, tu n'as jamais eu de doute sur le fait que ça soit quelque chose dont tu étais bien aligné sur ça, quoi?
Ah ouais, moi, c'est vraiment mon truc. En fait, j'ai toujours eu des problèmes de concentration. Quand j'étais en réunion dans l'immobilier, j'ai toujours regardé par la fenêtre au bout de 5 minutes. J'ai vraiment du mal à me focaliser sur quelque chose. Et le dessin, c'est la chose qui peut me focaliser pendant... des heures et des heures, genre 10 heures d'affilée sans que je bronche, alors que je suis toujours un peu éparpillée.
Et j'en parlais avec des gens autour de moi qui sont dans la phase d'avant toi, donc qui sont pas forcément dans l'immobilier, mais qui sont pareil dans cette voie qui est au final une suite de choses où il faut faire des bonnes études, donc je fais un job qui est en lien avec mes études, donc je fais ça, et qui ont du mal un peu à franchir le pas. Et ça serait quoi pour toi des... Il y a plein de conseils, maintenant toutes les situations sont différentes, mais ce serait quoi pour toi des conseils, ou quelles questions pourrait se poser quelqu'un qui est dans cette phase d'avant que tu as connue, pour l'aider à passer à la phase 2 de justement.
Bah, peut-être parler avec des gens qui ont sauté le pas. Ça peut, c'est toujours rassurant de voir qu'on n'est pas tout seul, en fait. C'est bête, mais ça nous rassure de voir qu'il y a d'autres personnes qui font ça aussi. Voyager aussi, ça permet de voir des situations différentes, de ne pas tout ramener à sa condition de vie parisienne, en fait. Ça permet de prendre un peu de hauteur et de se dire, en fait, il y a d'autres schémas possibles. Pas celui dans la... on est, en fait, ici, on a un peu la tête dans le guidon et on a l'impression que si on ne fait pas d'une certaine manière, c'est un peu un échec, alors qu'il y a plein de réalités possibles. Et en voyageant, on s'en rend compte. Bah ouais, tout simplement, rencontrer des gens, discuter. C'est des rencontres qu'on fait aussi qui nous inspirent. Moi, c'est des personnes qui m'ont inspirée. Des discussions que j'ai eues avec des personnes qui font que ça m'a transcendée parfois, ouais.
Et avec ton père, ça va mieux, par exemple, maintenant ?
Ouais, maintenant, ça va nickel.
Et tes amis qui justement disaient que t'étais pas Picasso, comment maintenant, quelle est leur vision par rapport à ce que tu fais ? Ils ont changé leur... Ils pensent que tu vas être la prochaine Picasso ou pour eux, c'est encore abstrait, l'idée de gagner sa vie en faisant des dessins ?
Non, pour maintenant, c'est bon, en fait. Le problème, c'est qu'après, quand t'as eu une validation par certaines marques ou...
Ah, c'est intéressant, ça,
En fait, quand les gens voient que tu travailles avec des marques, si les marques t'ont validé, ils te valident aussi. En fait, c'est un peu le principe de quand quelqu'un te veut, du coup, tout le monde te veut, en fait.
C'est-à-dire qu'au moment où tu as bossé avec une marque connue,
ouais, c'est ça.
Pour tes amis, tu es devenu crédible.
C'est un peu comme un effet de mode, en fait. Si tu vois quelqu'un qui achète une veste heureuse, le lendemain, tu vas voir 15 personnes avec une veste heureuse dans la rue, quoi. En fait, c'est le premier qui est difficile à avoir, la première personne qui te fait confiance, une personne qui a déjà un peu une notoriété et qui est reconnue.
Mais pas forcément l'argent que tu gagnes ou le nombre de clients que tu fais. C'est par exemple si tu bosses avec une marque qui est connue, c'est-à-dire si tu refais une boutique de magasin et que tu mets ça sur Instagram dans la tête des gens.
Exactement, ouais.
Ça y est,
c'est un métier, quoi. Ils ont fait confiance, donc du coup, ça veut dire que du coup, elle est vraiment artiste. Parce que artiste, on sait jamais, genre, est-ce que t'es vraiment artiste ou pas ? Est-ce que t'es décoratrice ? Ah, qu'est-ce qu'elle fait, en fait ? On comprend pas trop.
Mais justement, le mot artiste, il est un peu utilisé, enfin, il est perçu de manière bizarre par
où les gens te disent mais est-ce que tu gagnes ta vie ? Ah non, à côté en fait je...
Ah oui, ça c'est intéressant, quand tu dis que t'es artiste, c'est quoi la réaction des gens ? Parce que quand les gens te demandent ce que tu fais dans la vie, tu dis quoi ? Tu dis
je suis artiste, et du coup ils disent mais artiste, mais c'est-à-dire tu fais quoi ? Donc du coup je t'explique,
tu fais des dessins.
Je fais des dessins en fait, et après la deuxième question c'est mais est-ce que tu gagnes ta vie grâce à ça ?
Tu l'entends souvent ça ? Est-ce
ouais
que tu
ou genre tu fais quoi ? Tu fais serveuse à côté ? C'est ton hobby ? Non, en fait, genre regarde mon Instagram. Non, je voyage, je fais vraiment ça tout le temps.
Parce que, encore même, enfin après, je suis pas trop dans ces milieux artistiques, mais même de nos jours, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les gens ont quand même encore du mal à se dire une artiste peut vraiment gagner sa vie. Pour eux, artiste, c'est mais qu'est-ce que tu fais comme job à côté ? Ça,
ouais,
tu l'entends encore souvent ça.
C'est ça, ouais. Parce que je pense qu'il y en a aussi qui sont... Il y a beaucoup de personnes qui sont artistes ou graphistes. Les gens confondent un peu artistes et graphistes aussi. Et qui ont des jobs alimentaires à côté parce qu'ils ne peuvent pas en vivre. Ouais. Voilà.
Mais donc toi, la stratégie... Enfin, toi, dans ton parcours, ce qui a été intéressant, c'est que tu as eu ce CDI qui t'a permis d'avoir une rupture, qui t'a permis d'avoir ce matelas pour pouvoir faire tes choses, quoi.
Ouais, j'ai eu après, j'ai bien réduit mon train de vie. Genre, fini les restos, les Uber, les sorties et compagnie. J'avais plus du tout la même vie, quoi.
T'as fait quoi d'autre comme sacrifice ?
Sacrifice sur mes sorties, plus de Uber, plus de resto, plus de fringues.
Tu reviens au minimum, quoi.
Ah ouais, basique, quoi. Alimentation, loyer, matériel.
Et donc, justement, peut-être si tu sortais moins, donc pareil, tes amis, est-ce qu'ils t'en ont voulu ? Est-ce que ça les a confortés dans le sens de dire, mais Léona, fais pas ça, tu pourras pas gagner ta vie avec le dessin ?
Non, parce que mes amis, c'était des bonnes personnes, je pense.
Ça a pas changé, ça ?
Non, ça a rien changé du tout. Limite, ils venaient me voir chez moi, ou on se voyait chez eux, ou ils me disaient, allez, je t'invite, c'est bon. C'était les premiers temps, non, ça a absolument rien changé.
Et quand tu dis, allez voir mon Instagram, c'est devenu quoi ? C'est ton portfolio maintenant ? C'est ton endroit où les gens peuvent voir ce que tu fais ? D'ailleurs, allez voir sur Instagram, hein, c'est @leonarose, bien sûr.
En fait, j'ai limite même hésité à fermer mon site internet.
Que tu as toujours, par contre.
Ouais, parce qu'en fait, du coup, je vends des artprints dessus. Donc, c'est un peu mon e-shop, donc je le garde. Okay. Mais disons que quand j'ai un client, je leur dis, regardez directement sur Instagram, en fait. Faites-moi des screenshots. En fait, ils se font leur moodboard par rapport à mon Insta, tout simplement.
D'accord. Donc, tu as ton site et Insta, les deux, c'est ça ?
Ouais.
Le site, c'est plus pour la partie e-commerce ?
Ouais, voilà. C'est clairement pour les gens qui veulent passer des commandes ou autre. Et sinon, je leur dis, allez voir Instagram, faites-moi une sélection d'images, en fait, que vous m'envoyez. Et à partir de là, on commence à bosser, quoi.
Tu utilises d'autres réseaux sociaux ?
TikTok bientôt.
TikTok, on en a parlé juste avant. Ouais. Et Instagram est un outil de promotion important pour toi ? C'est-à-dire que les gens te connaissent de plus en plus grâce à ça ? Tu as des commandes qui viennent ?
Ah, clairement, ouais. J'ai eu des gros projets qui sont tombés par Insta, en fait, ouais.
Ouais. Ok, et tu as une stratégie sur Insta spécifique, enfin, tu te dis, est-ce que tu as envie de faire de la croissance, est-ce que tu postes de manière spécifique ou juste tu vas au fil de l'eau et tu postes un peu comme
ben
ça?
Ouais, j'ai vraiment envie de continuer à développer mon Insta parce que déjà j'adore tout ce qui est visuel.
Ouais. Ça tombe bien, c'est ton
ouais,
métier.
Bah oui, voilà, ça tombe bien. Et j'aime bien me mettre en scène dans différentes, devant mes fresques. Je suis passionnée un peu de design et d'architecture. Et je voyage pas mal. Et du coup, Insta aussi, c'est pour moi un outil parce que je voyage souvent seule. Et j'aime bien rencontrer des personnes, en fait, lorsque je fais des étapes dans des villes, un peu dans le monde, dans différents pays. Et généralement, je poste que je suis dans telle ville et j'ai des personnes qui me contactent sur Insta et que je rencontre, en fait.
C'est un peu ta carte d'identité virtuelle en disant
ouais,
regarde ce qui je suis, regarde
clairement.
Ce que je fais, quoi.
Et du coup, ça me permet d'échanger avec plein de personnes et de rencontrer des chouettes personnes aussi.
Et t'es à combien d'abonnés là? 80, 70 000, un truc comme ça?
Là, je suis à bientôt 60 000, ouais.
Ah, c'est pas mal. Comment t'as fait pour passer de 0 à 60 000?
J'ai fait pas mal de collabs avec des marques qui m'ont reposté, avec des influenceurs qui m'ont reposté, voilà.
Ok, c'est super. Et donc TikTok bientôt? On va pouvoir te suivre sur TikTok?
Voilà.
Ok. Et tu fais beaucoup de photos. La vidéo, c'est quelque chose qui est important pour toi, la vidéo dans ta communication ou...
Il faudrait que je commence, en fait. C'est vrai que j'étais vachement sur les photos, ce qui est statique, en fait, parce que tout le monde faisait un peu ça. C'est l'habitude que j'ai eue. Déjà, je suis passée de l'horizontale au vertical.
C'est bien, bravo.
Ouais, voilà.
C'est bien. Je valide.
Je pense que la prochaine étape, c'est la vidéo, mais ça demande une mise en scène parce que du coup, on bouge.
Ouais.
Mais du coup, j'aime bien danser devant mes fresques, donc je pense que je vais me mettre sur TikTok et je vais faire ça.
Ok. Est-ce que t'as des projets en ce moment sur lesquels on peut aller te voir ou des choses qui vont sortir ou...
Mon livre, en fait, qui va sortir en début d'année prochaine. Je travaille pour les restaurants Pokawa à Paris. Du coup, je leur ai fait pas mal de fresques un petit peu éparpillées dans Paris.
Ok.
Voilà, dans leurs différents restos. Et là, après, je vais partir au Mexique en début d'année.
Cool.
Tant que vous ne pourrez pas me trouver à Paris.
Vous ne pourrez pas te trouver à Paris. Bon, bah, trop bien. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour des gens qui nous écoutent et qui, je sais pas, ont envie aussi de se lancer ou qui sont dans l'art ou je sais pas. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose à dire à nos auditeurs? Alors, je dis auditeurs, je ne sais même pas si des gens vont vraiment écouter, mais en tout cas.
Il faut faire les choses avec son cœur, en fait. Voilà, croire en ses rêves et écouter vos potes positifs qui vous encouragent et pas les autres. Voilà.
Donc faut savoir bien s'entourer, c'est aussi un truc,
ouais,
un conseil, ça.
Ouais, parce que se faire confiance quand on n'a pas confiance en soi, moi j'ai pas trop confiance en moi par exemple, du coup faut écouter les amis qui nous encouragent et.
Et donc toi pour le coup t'as pas eu à changer j'imagine ton cercle ou peu, mais tu penses que si demain on a comment on fait pour détecter des amis négatifs ou qui te mettent une chape de plomb sur toi, sur tes rêves, comment tu penses qu'on peut?
Mais les personnes qui jugent, en fait. En fait, on n'est pas devin, personne n'est devin. Du coup, quelqu'un qui dit non, mais ça va pas marcher, qu'est-ce qu'il en sait, en fait? Il a pas grandi avec nous, et même il aurait grandi avec nous, par exemple. Moi, ma sœur, au début, elle me disait je sais pas trop, mais si t'as l'air bien, quoi. C'est juste des gens qui jugent pas et qui nous ferment pas des portes alors qu'ils sont pas à notre place ils en savent rien, en fait.
C'est trop bien. Merci Léona Rose, vous pouvez la suivre sur Instagram, Léona Rose, sur TikTok aussi, Léona Rose, j'imagine.
Léona Rose officielle, Léona Rose était déjà pris.
Donc allez suivre la officielle, donc Léona se lance sur TikTok, vous allez voir plein de vidéos d'elle.
C'est ça.
T'as un site internet aussi.
Ouais.
Et ton bouquin qui sort début d'année prochaine.
Ouais.
Merci d'être passé dans mon podcast, Léona.
Merci.